militants, notamment américains, se relaient pour dissiper cette peur. Et puis du côté des valeurs, Engie s'est allégée au capital de GTT. C'est un spécialiste des membranes pour les cuves des navires qui transportent du gaz naturel liquéfié. Il a cédé 10% du capital au prix de 67 euros par action. C'était Céline Pentex, investir pour RFI.
Merci Céline. Et puis toujours de l'économie, Amazon va racheter le célèbre studio de cinéma américain MGM, un rachat pour 8 milliards et demi de dollars. On en reparle dans notre prochain journal à 19h, heure de Paris.
Milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages.
Radio G. www.radio-g.fr.
Radio G s'associe aux 100 ans de la radio en France.
Le 24 décembre 1921, Radio Tour Eiffel émettait le tout premier programme radio à destination du grand public.
100 ans plus tard, Radio G et l'ensemble de ses animateurs, animatrices, vous proposent de faire le point sur les évolutions du média radiophonique.
Toute la semaine, du 29 mai au 6 juin, retrouvez des chroniques et émissions spéciales sur le 101.5 FM. Programme complet sur radio-g.fr.
Radio G. www.radio-g.fr.
We have to come back. Impressed.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. J'espère que vous me pardonnerez ce lancement un peu délicat d'émission, le temps de retrouver tous les boutons, leur place. Vous êtes à l'écoute de l'Oreille Curieuse, la quotidienne culturelle de Radio G. Bienvenue dans cette émission, merci d'être avec nous. On est mercredi, c'est le jour du cinéma, des enfants et aussi de plusieurs chroniques. On va retrouver Tonton Albert. Salut Albert.
Bonjour Annelie, bonjour à tous.
Pour un billet d'humeur, la bouteille aux trois quarts vide, ce sera en début d'émission, il y a Céleste le guichet choral. Salut Céleste.
Salut Annelie, ça faisait longtemps.
Mais oui, tout le monde est ravi de te retrouver.
J'en suis sûr.
J'entends nos auditeurs et nos auditrices, tu veux nous dire de quoi tu vas nous parler en deuxième partie d'émission?
Non, je vais laisser la surprise, j'aime bien toujours laisser une petite surprise.
Merci pour
comme
ce
ça,
refus.
Ça laisse... Les auditeurs pour rester avec nous.
On l'espère. Et si tout va bien, nous aurons Pierre Hugo qui est mandaté pour le petit lexique du théâtre pour nous apprendre des choses si la connexion le permet. Voici donc pour le programme de cette émission. On est ensemble jusqu'à 18h50. Bien entendu, on ouvre avec un proverbe qui est tout beau, tout neuf, tout frais et que vous allez faire vôtre. Quand le virus perd de l'ampleur, la culture reprend des couleurs. Tu valides Albert, c'est bon ?
Je valide, très sans
bien.
Réserve.
Sans réserve. Et justement, on va commencer avec la chronique d'Albert, la bouteille aux trois quarts vide. Alors Albert, tu nous as préparé une page d'histoire aujourd'hui.
C'est exactement ça. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je vais prendre soin de la frange la plus conservatrice de mon auditoire. Vous qui regrettez cet âge d'or où des gamins de 8 ans travaillaient dans les mines parce qu'au moins pendant qu'ils attrapaient la silicose, ils ne faisaient pas de bêtises. Vous qui regardez avec nostalgie l'époque pas si lointaine où les femmes n'avaient pas encore le droit de... un compte bancaire. Bref, vous qui incarnez la fine fleur de cette France dont la capitale fut... C'est bien assuré. Les 150 ans de la Commune de Paris sera sous peu de l'histoire ancienne. Quant au bicentenaire de cette insurrection populaire qui inventa rien de moins que la démocratie participative, il n'est pas garanti qu'il soit célébré. En tout cas, ce ne sera pas moi qui vous en parlerai, ce qui est déjà en soi une bonne nouvelle. Pour le moment, quoi de plus légitime que j'évoque aujourd'hui, en cette fin mai 2021, le souvenir de la semaine sanglante qui, 150 ans plus tôt, très exactement du 21 au 28 mai 1871, battait son plein dans les rues de Paris. Toutefois, j'ai pensé que dresser un portrait un peu à la Jean Bodin du personnage clé de cette répression à rendre jaloux par son ampleur une junte birmane ou un dictateur syrien ferait plaisir aux auditeurs les moins enclins aux thèses progressistes. Je vous parlerai donc de quelqu'un qui adorait l'ordre autant qu'il détestait les ouvriers. Un monsieur qui a donné son nom à de nombreuses rues dans tout le pays, à savoir Monsieur Thiers.
Il y en a d'ailleurs une à Angers.
Oui, comme Jean Bodin. Il faudrait d'ailleurs que l'on se renseigne sur les modalités d'attribution des noms de rue dans notre bonne ville d'Angers. Mais revenons au parcours de Monsieur Thiers, Adolphe de son prénom.
Adolphe, rien que ça.
Bon, il ne faut pas tirer de conclusions hâtives sur le seul prénom, d'autant que l'autre, celui qui est hélas encore plus célèbre que notre Monsieur Thiers, n'est pas son contemporain. Et lui, au moins, n'a pas de rue à son nom, que je sache. Heureusement qu'il y a des limites à l'indécence. Adolphe Thiers naît un beau jour d'avril 1797 dans la ville qui a donné son nom à notre hymne national. Faut-il y voir les prémices d'une vocation à diriger le pays ? Élève studieux autant que brillant, un véritable savant de Marseille, notre petit Adolphe, sa taille n'atteint qu'à 1,55 m, peu cher, et dévoré d'ambition. Être une demi-portion et sa poletière, c'est drôle, non ? Bon, son diplôme d'avocat en poche, le voilà qui quitte sa province natale, ses 100 ans et sa bouillabaisse pour monter à la capitale et se familiariser avec la cuisine politique. Là, il va côtoyer du beau linge. Comme le prince de Talleyrand, dont Napoléon Bonaparte disait qu'il était, je cite, « de la merde dans un bas de soie ». On voit que notre petit Adolphe est en bonne compagnie. Parrainé par un tel mentor, il fréquente les salons parisiens qui comptent et sait saisir les opportunités qui se présentent. C'est ainsi qu'en 1830, il sent le vent tourner. Les girouettes sont souvent munies d'un sens inné dans ce domaine. Précisément quand le roi Charles X met fin à la relative liberté de la presse qui prévalait jusqu'alors. Ça tombe bien, en plus d'être avocat, notre Adolphe est journaliste. Il rédige une protestation bientôt signée par une quarantaine de ses confrères. La colère monte aussi vite que le thermomètre en cette fin juillet 1830. Après 3 jours d'émeute, Charles X prend la poudre des scampettes. Il est aussitôt remplacé par un petit nouveau que l'on n'attendait pas, Louis-Philippe. Les insurgés qui pensaient balayer la royauté voient s'éloigner l'idée même de république qu'ils ont à peine entreaperçue. Et qui donc a convaincu le gars Louis-Philippe qui n'incarne pas encore un style de mobilier à ramasser la couronne tombée dans le ruisseau ?
Je parie pour Adolphe Thiers.
Gagné. Thiers, qui est déjà un personnage influent, parvient à faire miroiter un destin royal à Loulou Fifi Ier. Thiers, qui, avec sa pétition, est tout de même à l'origine du soulèvement parisien, se dit que maintenant que le ménage est fait, le bon peuple de Paris devrait rentrer sagement à la maison. En gros, il est temps d'appeler les pompiers pour éteindre l'incendie qu'il a lui-même allumé. Et, en 3 coups de cuillère à peau, notre rasobitume à Canebière devient faiseur de roi. Commence alors pour lui une ascension fulgurante. En un trimestre, le bougre est conseiller d'État, puis député et enfin ministre. Pas mal pour un petit provincial du tiers état. Si notre Adolphe sait cultiver son entrejambe, il sait aussi se servir de son entrejambe. Il est notoire que les hommes de pouvoir, fussent-ils de petite taille, ont des maîtresses. Ce cher Adolphe ne fait pas exception à la règle et entretient une liaison avec l'épouse d'un financier de ses amis. La dame est tellement satisfaite de son amant qu'elle finit par en faire son gendre. Quand on a une fille âgée de 15 ans, il est vrai qu'il est temps de songer à son mariage. Et quand on est une mère soucieuse du bonheur de son enfant, autant avoir une bonne connaissance des mains qui se promèneront sur son corps d'adolescente. On peut en conclure que désormais, Monsieur Thiers a une moitié. avec laquelle il emménage chez ses beaux-parents. La crise du logement, déjà. C'est aussi plus pratique pour poursuivre la relation avec la mère tout en ayant une vie conjugale avec la fille. Cerise sur le gâteau, la sœur cadette partagera également avec son aîné et sa maman la vitalité de notre Adolphe. Certes, ce n'est pas encore l'ambiance familiale décrite par Camille Kouchner dans son best-seller, mais on atteint déjà là un niveau plus que correct. Thiers est si emblématique par son élévation sociale comme par ses turpitudes qu'il a inspiré à Balzac son fameux personnage de Rastignac, le maître étalon de l'arrivisme. On pourrait penser que M. Thiers a atteint son apogée en tant que ministre des Finances. Que nenni ! Ce cher Adolphe va déployer tout son savoir-faire au ministère de l'Intérieur. Il faut dire aussi que dans cette bonne ville de Lyon, les travailleurs de la soie, les fameux canuts, protestent contre une baisse substantielle de leur salaire et érigent des barricades. Au pays de la soie, notre Adolphe ne fait pas dans la dentelle. 600 morts plus tard, l'ordre est rétabli. Ce sera en quelque sorte un galop d'essai pour M. Thiers, puisqu'il atteindra plus tard au moins les 20 000 morts en écrasant la commune de Paris. Ce qui représente tout de même Paris comptant alors 2 millions d'habitants, la bagatelle d'un ou d'une parisienne sur 100, exécutée. Avant cela, il donnera libre cours à son côté girouette en soutenant tout d'abord Louis-Napoléon Bonaparte, le futur empereur Napoléon III, avant de se fâcher avec. Position finalement couronnée de succès, car une fois Napoléon III vaincu par les Prussiens, auquel il a eu l'idée saugrenue de déclarer la guerre, qui donc ira négocier avec les vainqueurs les conditions de l'armistice ?
Encore et toujours, monsieur Thiers.
Tout juste. Quand je dis négocier, il ne faut rien exagérer. Il s'agit surtout d'apposer la signature de la France au bas d'un acte de capitulation et de régler, rubis sur l'ongle, les faux frais engagés par Bismarck dans ce conflit. Voilà. 5 milliards de francs or, une misère. Oui, Anneli, on peut parler alors de tiers payant. Anecdote, la somme est remboursée FISA grâce à un emprunt au taux particulièrement attractif. Le parti de l'ordre fraternise donc sans difficulté avec celui du bas de laine, car notre Adolphe sait préserver le droit des tiers, surtout s'ils sont pleins aux as. Bref, Monsieur Thiers, parce qu'il s'est opposé à un Napoléon III désormais au rebut, est redevenu l'homme fort du pays et la coqueluche de l'Assemblée de royalistes qui vient d'être élu. Un comble dans un pays qui vient de proclamer la République. Comme ce dernier tiers du XIXe siècle est une époque qui ne craint pas les paradoxes, la dite Assemblée prend ses quartiers à Versailles.
Joli clin d'œil à l'absolutisme royal.
En effet. Et cela permet de diriger à distance le massacre de la population parisienne sans avoir à redouter une balle perdue. Entrées dans Paris, les troupes versaillaises transforment en passoire hommes, femmes, enfants sans discernement une complète semaine d'hécatombe. Pour l'ensemble de ses exploits, notre Adolphe deviendra le premier président de la Troisième République. Un modèle de réussite qui méritait bien d'avoir quelques rues à son nom à travers tout le pays.
Merci Albert pour ces barres sur les T, les points sur les I. Ce cours d'histoire, le texte, on peut le retrouver sur ton site,
ouais, comme
le Saltimbook, et je mettrai tous les liens dans le podcast de l'émission. On va respirer avec une musique.
Le temps des cerises et guerre signale et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons, le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur. court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour, robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
C'était Le temps des cerises d'Yves Montand, chanson très connue, mais pourquoi tu as choisi qu'on l'écoute après ta chronique sur Monsieur Thiers et avoir évoqué la commune, Albert?
Parce que cette chanson est devenue une chanson un peu emblématique de la commune de Paris, avec des aspects comme la plaie ouverte, etc. Le temps des cerises et les gouttes de sang, etc. Alors, il faut savoir tout de même que cette chanson a été écrite par Jean-Baptiste Clément, qui a été un communard, et cette chanson a été écrite avant la Commune de Paris. Elle est devenue par la suite une référence à cette insurrection populaire qui ne dura que 72 jours, mais qui a marqué durablement au moins l'imaginaire de certains et de certaines surtout. Parce que le rôle des femmes a été essentiel durant la commune.
Merci pour ces éclaircissements, Albert. Vous n'écoutez pas une émission d'histoire, même si on devrait en faire plus souvent, parce qu'on apprend beaucoup de choses déjà dans l'histoire et dans les chansons.
C'est intéressant.
Vous êtes à l'écoute de l'Oreille Curieuse sur le 101.5 de Radio G. Et maintenant, on va parler de cinéma. Et c'est avec toi, Céleste.
Et oui, c'est bien moi, Céleste, de retour après 4 semaines de pause. Vous avez vraiment cru que j'allais partir sans finir la saison de l'émission? Vous vous fourvoyez lourdement. J'ai bien l'intention d'achever ce que j'ai commencé, de toujours continuer à parler de cinéma mainstream, Alors, il y en a qui ne seront sûrement pas heureux de me revoir, mais écoutez, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et c'est un peu aussi le thème de cette chronique, le « on ne peut pas plaire à tout le monde ». Car en voulant revoir le film John Carter, que j'avais le souvenir d'avoir plutôt aimé, je me suis demandé quels étaient les gros désastres financiers du cinéma. Alors, il y a toute une liste sur Wikipédia, vous pouvez la voir, il y a des trucs qui ont beaucoup de succès critiques, comme par exemple La Planète du Trésor, et d'autres vraiment qui ont été des échecs, même pour le...
Sur tous les plans.
Pour les critiques, voilà. Et ma question suivante a été, quelles ont été les raisons de ces échecs? D'accord, ce sont des échecs, mais pourquoi? Et c'est avec les réponses en main que je m'apprête à faire cette chronique au travers de trois films qui sont intéressants dans leurs échecs. Donc d'abord, une adaptation de jeux vidéo ambitieuse qui s'appelle Final Fantasy, les créatures de l'esprit. Un film d'un grand réalisateur acclamé, Hugo Cabret. Et l'un des plus gros échecs de Disney, donc John Carter. Prenez votre ticket, la séance du guichet choral vous est présentée par moi, Céleste, et elle va tout de suite commencer. Final Fantasy et les créatures de l'esprit, donc réalisé par Hironobu Sakaguchi, est le tout premier film en images de synthèse qui a une volonté d'être réaliste. Et il est sorti en 2001, soit 6 ans après Toy Story, qui est lui le tout premier long métrage en images de synthèse, tout court. Le film est donc une adaptation de la saga de jeux vidéo Final Fantasy qui a été créée par Sakaguchi lui-même et se passe en 2065 sur une terre désolée peuplée d'extraterrestres appelés les fantômes qui peuvent tuer les humains par simple contact physique, ce qui on le voit un peu, c'est la triche. Pour vaincre les extraterrestres, une scientifique du nom d'Aki Ross, avec l'aide de son mentor le Dr Seed, va tenter de mettre la main sur 8 esprits qui, une fois réunis, peuvent battre les fantômes extraterrestres. Pour l'aider dans sa quête, elle va être aidée par une équipe militaire cliché, comme il en existe des milliers dans le cinéma d'action américain. Le long métrage est franchement sympathique et surtout très impressionnant, même s'il cumule plusieurs défauts de blockbuster. Donc l'histoire est assez prévisible, assez classique, on l'a vu dans le résumé, et aussi cette équipe militaire qui est assez cliché avec le faire-valoir rigolo, la femme badass garçon manqué, le mec noir musclé avec un grand cœur, le héros qui est aussi musclé, à cheval sur les règlements, et qui est accessoirement l'ex-petit ami de la personnage principale, et surtout le méchant très méchant qui est méchant juste pour être méchant. Le film a coûté 137 millions de dollars, ce qui est franchement énorme pour l'époque, énorme pour un premier film, et surtout énorme pour une adaptation de jeu vidéo. Un budget qui s'explique par la qualité de l'animation. En effet, l'animation est vraiment réaliste, sachant que le tout premier film a utilisé des capteurs sur les acteurs pour capter leurs mouvements et donc avoir une animation vraiment fidèle, date de 2004. Le film Final Fantasy est sorti en 2001, soit 3 ans avant. Ce qui veut dire que tout ce qu'on voit, les personnages, le mouvement et leur visage, ont tous été animés entièrement à la main. Ce qui rend vraiment le côté réaliste absolument impressionnant. Le problème, c'est que la conception du film a duré 4 ans. Ce qui fait que certains plans conçus au début sont devenus techniquement obsolètes vers la fin. Ils ont dû donc être refaits, et ce qui a permis au budget de totalement exploser. Le film, au final, n'a rapporté que 85 millions pour un budget de 137. Et c'est franchement dommage. L'une des principales critiques faites à l'encontre du long métrage, qui peut expliquer son échec, est qu'il n'avait pas beaucoup de rapport avec la franchise de jeux vidéo Final Fantasy, dont il est une adaptation. Mais même les jeux eux-mêmes, entre eux, n'ont pas vraiment beaucoup de rapport, et on ne peut pas raconter autant de choses dans un film de 2 heures que dans un jeu vidéo qui dure 15-20 heures. Donc pour moi, ce n'est pas vraiment une critique valable. Une autre raison qui a pu expliquer, c'est le rythme du film. Certaines critiques déploraient le fait que certaines scènes d'action étaient un peu molles, qui est peut-être expliquée par l'animation qui est un peu datée, mais c'est l'un des tout premiers film en images de synthèse, c'est vraiment les balbutiements de l'animation. On est en 2001, donc 3 ans avant Les Indestructibles, qui est l'un des plus grands films d'action d'animation au monde, donc c'est encore un truc qu'on peut pardonner au film. Et on peut vraiment pardonner beaucoup de choses à ce film, ce qui rend son échec encore plus dommage, parce qu'il avait signé une sacrée avancée dans le monde du cinéma, de l'animation et du jeu vidéo. Son existence, avec celle des films Pixar, aura au moins permis aux studios, de jeux vidéo comme de cinéma, de s'inspirer de la technique en montrant qu'il était possible de faire du cinéma incroyable avec seulement quelques ordinateurs. Voilà, maintenant on va passer à la suite avec Hugo Cabret. Hugo Cabret, ou Hugo dans sa version originale, est un film réalisé par Martin Scorsese et contant l'aventure du jeune Hugo Cabret, enfant ayant perdu son père et s'occupant de l'entretien des horloges de la gare Montparnasse dans le Paris des années 30. Il a pour projet de réparer un vieil automate cassé, seul objet que son père a pu lui laisser, et pour cela il vole toutes sortes de pièces mécaniques à un vieux marchand, jusqu'au jour où celui-ci va l'attraper et lui confisquer son carnet contenant toutes les notes sur le vieil automate. En cherchant à le récupérer, il va le faire à la connaissance de la filleule du marchand avec qui il va devenir ami. Je vous l'ai dit dans le résumé, le film est réalisé par Martin Scorsese, donc c'est pas un amateur, loin de là, puisqu'il est considéré comme l'un des plus grands réalisateurs vivants. Il a fait des films comme Taxi Driver, Les Affranchis, Le Loup de Wall Street, etc. Donc quand on démarre le film, on s'attend évidemment à quelque chose de grandiose, au moins au niveau de l'animation. Et sur ce point, le film ne déçoit pas du tout. Scorsese retrouve son âme d'enfant sur ce film avec des couleurs assez chatoyantes, des tons allant du bleu à l'orange chaleureux. Et c'est le tout premier film en 3D du réalisateur, et ça se voit par certains plans qui veulent vraiment nous faire ressentir l'effet de profondeur. On voit que Scorsese s'amuse vraiment avec ce film, avec aussi des décors franchement impeccables, une direction artistique qui est très maîtrisée et un casting fabuleux. J'ai un peu plus de mal avec la musique, qui est composée par Howard Shore, qui a fait aussi la musique du Seigneur des Anneaux, qui fait vraiment très cliché par moment. On sort l'accordéon 30 fois par toutes les 10 minutes, juste pour nous faire comprendre qu'on est bien à Paris. Et la musique manque un peu d'être marquante, même si elle est tout de même assez bien construite. Là où le bas vraiment blesse pour moi, c'est le rythme et le scénario. Le film est par moments beaucoup trop long, on manque un peu de s'endormir sur des plans qui prennent leur temps. Et c'est dommage, parce que 50% du temps, on s'amuse vraiment pendant le visionnage. Quant au scénario, je l'ai trouvé un peu simpliste, c'est mon avis évidemment, et je ne sais pas si c'était une volonté du scénariste de faire simple pour plaire aux enfants, mais le succès des Pixar montre que les enfants peuvent avoir un scénario complexe entre les mains et s'amuser tout de même. Enfin voilà en ce qui concerne le film qui a rapporté 185 millions pour un budget estimé entre 150 et 170 millions. Donc il a rapporté plus qu'il avait que son budget, mais ça reste un échec pour les studios car lorsqu'ils produisent un film, ils cherchent toujours à avoir une marge et donc avoir seulement 15-20 millions en plus, c'est pas bénéfique et donc c'est un échec. Les raisons de cet échec, déjà une campagne marketing un peu mensongère. Je sais pas si vous avez déjà vu la bande-annonce de Hugo Cabret ou ne serait-ce que les posters où on voit le héros du film accroché à l'aiguille d'une grande horloge avec comme slogan « L'un des plus grands réalisateurs de notre temps vous invite pour une aventure extraordinaire ». On s'attend vraiment à une aventure fantastique avec des éléments de fantasy qui nous emmènent un peu partout dans la ville de Paris. La réalité est un peu plus complexe parce qu'on a bien la balade un peu partout dans la ville de Paris, mais il manque un peu l'aventure fantastique, les éléments de fantasy. Hugo Cabret est plus une sorte d'hommage au cinéma, celui de Georges Méliès en particulier. Je vous ai parlé par exemple dans le résumé d'un automate que Hugo doit réparer qui appartient à Georges Méliès, et bah, celui-ci est rapidement délaissé par l'intrigue et on se concentre du coup bien plus sur ce monsieur Méliès, et le film au final n'est pas du tout à ce à quoi on s'attend. Et en plus, Hugo Cabret a eu le malheur de sortir en même temps que le grand retour des Muppets au cinéma. Et surtout, il sera face au mastodonte Mission Impossible numéro 4 de Brad Bird, qui engrangera plus de 650 millions de dollars dans le monde. Donc face à ça, il n'a rien pu faire. Pour finir, je voulais vous parler de John Carter, sorti en 2012, qui est le deuxième plus gros échec financier de Disney. Adapté du roman d'Edgar Rice Burroughs, John Carter raconte l'histoire de John Carter, jusque-là c'est logique, un ancien soldat sudiste de la conquête de l'Ouest qui, en fuyant un conflit, va se retrouver transporté sur la planète Mars en plein cœur d'une guerre entre les deux nations de la planète rouge. Le film est réalisé par Andrew Stanton, qui n'est pas un illustre inconnu puisqu'il provient de l'écurie Pixar, pour qui il a déjà réalisé des chefs-d'œuvre comme Wall-E ou Le Monde de Nemo et scénarisé les 4 Toy Story. Donc on a quand même affaire ici à l'un des piliers de l'animation en image de synthèse et un pilier du studio à la lampe sautillante. Évidemment, un mot sur le film avant, que pour le coup j'ai vraiment aimé. Le film est magnifique, surtout en ce qui concerne les effets spéciaux, mais ça aurait été un peu étonnant du contraire de la part de quelqu'un de chez Pixar, qui, on le rappelle, sont vraiment les piliers de l'image de synthèse. Vraiment, les environnements, les véhicules, les personnages non humains sont absolument incroyables, on a limite l'impression de les toucher. L'histoire est sympa aussi à suivre, les personnages sont cool malgré une romance un peu expéditive. Et la musique est composée par un Michael Giacchino toujours impeccable. Non, vraiment, c'est un excellent film. Et pourtant, comme disait Aznavour, le film a été un four complet, ne rapportant que, entre guillemets, 284 millions de dollars pour un budget total estimé à un peu plus de 350 millions de dollars. Et ça, ça en fait de l'argent. Alors, quelles sont les raisons de cet échec ? Eh bien, il a plusieurs raisons. Déjà, comme je l'ai dit il y a quelques instants, Andrew Stanton, le réalisateur du film, vient de chez Pixar. Il y est depuis le début et ça se ressent dans l'écriture, dans les visuels et surtout dans la réalisation. Là où certains, comme le réalisateur Brad Bird, ont réussi à passer du film d'animation aux prises de vue réelles sans problème, pour Stanton, c'est un peu plus compliqué. Le film ressemble un peu trop à un film d'animation dans le choix des plans, dans le découpage, dans le montage. Après, moi, j'ai rien contre, hein. J'adore les films d'animation. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que j'aime bien ce film, mais on se demande si un film d'animation n'aurait pas été mieux tant la technique de l'animation permet plus de liberté à tous les niveaux. Il manque en fait à Andrew Stanton ce savoir-faire du cinéma en prise de vue réelle, celui de son collègue Brad Bird qui a fait pour Pixar Les Indestructibles et Ratatouille, qui fera après le Mission Impossible 4 et À la poursuite de demain. Deuxième raison de l'échec de John Carter, le nom même du film. Je l'ai rapidement évoqué dans le résumé, les personnages et l'univers de John Carter sont tirés de l'imagination d'Edgar Rice Burroughs, un auteur qui a également été à l'origine de Tarzan. La franchise de livres sur John Carter a été très populaire, mais dans les années 20, 30, 40. Aujourd'hui, pas grand monde ne connaît le cycle de Mars de l'auteur, moi-même je ne le connaissais pas, je l'ai su en allant sur la page Wikipédia, qui est donc le cycle de Mars, qui est une saga de space fantasy qui se déroule sur la planète rouge, une saga assez sanglante, assez violente et sulfureuse, donc ça fait pas très Disney-friendly. Et d'après ce que j'ai compris, le film mélange des lieux, des événements et des personnages des deux premiers livres et adapté deux livres en même temps, c'est, et pardonnez-moi l'expression, un peu casse-gueule. Le fait que cette franchise de livres n'était pas très populaire de nos jours a influencé la campagne marketing. Les gens ne connaissaient pas la franchise, donc ils ont essayé de marketer ça sur John Carter, sauf que personne ne connaît John Carter. Et c'est toujours une mauvaise idée de vendre un film sur le nom du héros, hein, Hugo Cabret. Et les gens n'avaient sûrement pas grand-chose à faire de ce John Carter. En plus, la planète Mars, qui est très désertique dans le film et donc dans les bandes-annonces, ne donne pas forcément très envie de s'y plonger, on dirait plutôt les déserts américains de l'Utah. Et enfin, les fans des livres ont sûrement eu du mal à aller le voir, étant donné que le titre du bouquin de base est Une princesse de Mars et non pas John Carter. Et enfin, évidemment, la concurrence d'en face. John Carter partait déjà avec plusieurs handicaps, mais ce qui a achevé le film au cinéma, c'est ce qu'il passait en même temps. Et oui, seulement deux semaines plus tard, le gros blockbuster Hunger Games allait absolument tout raser sur son passage, ne laissant aucune chance aux autres gros films qui sortaient. Et un mois après, c'était Avengers. Là, son sort était déjà scellé au pauvre John Carter. Et en vrai, j'aime pas voir des bons films échouer, surtout ceux qui entreprennent vraiment quelque chose de grandiose comme Final Fantasy. Ce genre de projet, il faut vraiment soutenir juste pour voir ce que ça peut donner. Surtout que les cinémas viennent d'ouvrir, donc je compte sur vous pour vraiment faire honneur à ces films. Et oui, je tombe bien. Donc évidemment, je vous conseille les trois films dont j'ai parlé aujourd'hui, Hugo Cabret, John Carter et Final Fantasy, car ils sont tous vraiment intéressants à voir, même si parfois l'histoire est un peu moins bien, il y a vraiment quelque chose, ne serait-ce que visuellement, à voir. Et en plus, les cinémas sont ouverts depuis une semaine, au moment où je lis ces mots, alors allez-y. Lors de ma toute première chronique, il y a de cela 7 mois, presque jour pour jour, je vous avais conseillé le film Adieu les cons d'Albert Dupontel, et c'est toujours d'actualité, il est toujours dans les salles en ce moment, ou en DVD si vous écoutez cette chronique dans un futur proche. Le film est génial, alors n'hésitez pas. Il y a également un petit film de science-fiction français qui est sorti, qui s'appelle Le Dernier Voyage, et qui, franchement, par ses visuels, a l'air vraiment ambitieux, comme les films dont j'ai parlé aujourd'hui, donc allez soutenir ça, franchement. de la science-fiction française, ça ne se refuse pas. Sur ce, ma chronique s'achève. On se retrouve dans deux semaines pour une autre chronique, évidemment. Je vous laisse avec The Winner Takes It All, du film Mamma Mia, chanté par la grande Meryl Streep. Ça parle d'échecs, de gagnants et de perdants, donc on est pile dans le thème. Voyez des films, prenez soin de vous. La séance est levée. Salut.
I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. In your arms, thinking I belong there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong there. But I was a fool, playing by the rules. The gods may throw the dice, their minds as cold as ice, and someone way down here loses someone dear. The winner takes it all, the loser has to fall. It's simple and it's plain. She kiss like I used to kiss you. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. The judges will decide, the likes of me abide, spectators at the show, and stay in love. The game is on again, a lover or a friend, a big thing or a small, and when I take it, I don't wanna talk, 'cause it makes me feel sad. And I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes it all.
Merci Céleste pour ce dernier choix musical.
Mais de rien.
C'est cadeau. On retrouve ta chronique en ligne sur le site de Radio G,
oui.
Le Guichet Choral.
Le Guichet Choral, sur Spotify, la même chose.
Trop facile.
Le Guichet Choral.
Mais quelle célébrité. Albert, on retrouve aussi ta chronique sur le site de Radio G, mais oui. Pour l'instant dans le podcast de l'Oreille Curieuse.
C'est déjà bien. Hein,
c'est déjà pas mal.
Non, mais franchement.
C'est gentil.
Non, tout à fait.
Bon, merci beaucoup à vous d'avoir été à l'écoute de cette émission. On espère que vous avez passé un bon moment, quand même.
Oui.
L'énergie se perd dans ce studio. Tout est en ligne sur le site, vous le savez, le podcast est réécoutable. Nous, on se retrouve demain à 18h10 avec une programmation un peu surprise. Je ne sais pas si on parlera de théâtre ou d'art visuel.
Waouh.
Et oui, seule ma boîte mail est au courant.
Même pour toi, c'est une surprise.
Même pour moi, c'est une surprise. On parlera de science, en tout cas, en deuxième partie d'émission avec Benoît et la chronique consacrée.
Yes.
Bimensuelle. D'ici là, vous pouvez nous écrire sur les pages des réseaux sociaux de Radio G, sur le site internet, il y a un formulaire de contact. Et à 19h, dans quelques minutes, vous retrouvez Bande Geek Mafia, l'émission Infoculture. Et je pense que l'équipe est ravie de retrouver le studio et le direct. Merci. À bientôt.
Merci.
À bientôt. Ouais.
Au revoir.
Radio G 101.5 FM. We have to come back. Embrace the world. We are the danger. What goes on inside? It's fraught of confusion. So let go of yourself and tell it to the pale. We have to come back, leave the world alone. Give up the ego, unnecessary tension, concept of our marriage, illusion and fortune, alienated, we can't fight, cut off, we have to come back. Same life repeating over and over, we got something started, what is the hurry, doing the same things over and over. Same life repeating what you desire. I was mistaken. It's time to awaken. Give back to nature all that you took. We have to come back. Fraud or confusion. So let go of yourself and to the pale moon. We have to come back, leave the world alone. Give up the ego, unnecessary tension, concept of our marriage, illusion and falsehood.
something started. We got something started.
She owns their eyes as she flies by through the sound, moving her body all around town. Hey, mommy, hey, mommy, I know where you are, I
know what you want, I know what you want. Sooner or later the dudes at bodegas will hold their lips and own this shit. Coming to terms on a shivery tip. But I'm here, oh, she don't know the gravity she holds as she pulls on the eyeballs of all the kids standing tall. Am I mean?
www.radio-g.fr